Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Un autre sujet d'actualité qui nous préoccupe ce matin, qui nous occupe en tous les cas, c'est bien sûr tous ces cas en cours qui parlent d'agression sexuelle et qui essayent de voir si ceux qui sont accusés vont véritablement être trouvés coupables. Je vous parle également du procès Weinstein. Hein. Vous savez que les jurys hier ont demandé à revoir un témoignage. L'ancien producteur de Hollywood, s'il est retenu coupable, est passible de la prison à perpétuité. Au moment où on se parle, il y a de moins en moins de personnes qui croient que ça risque d'arriver. Chez nous, ben, il y a le procès d'Éric Salvaille. Évidemment, c'est pas le même genre de cause, mais il est aussi question ici d'une victime présumée qui affirme qu'Éric Salvaille l'a agressé sexuellement. On en a appris plus au jour 4 de ce procès chez nous à Montréal. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées hier. Hein. Hier matin, on discutait, vous et moi, de la potentialité qu'Éric Salvaille puisse témoigner ou non. On avait un avocat criminaliste, M. Jean-Pierre Rancourt, qui nous disait qu'il n'était pas sûr, lui, s'il était l'avocat de Salvaille, de le faire témoigner. Bon, on a vu qu'hier après-midi, puis ça se poursuit ce matin, l'ex-animateur a témoigné pour sa défense. Il ne se souvient pas de la victime présumée. Il ne se souvient pas du tout d'avoir croisé M. Duguay. Éric Salvaille estime même qu'il ne travaillait plus du tout au service de courrier de Radio-Canada. Bref, encore une fois, ben là, il y a un témoignage, puis c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Moi, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. À la lumière de tout ce qu'on dit, est-ce que ça vaut la peine de porter plainte quand on est une victime au Québec, quand on a l'impression d'avoir été victime d'un crime? Qu'est-ce que ça vous dit, tout ce qui a été dit cette semaine? Dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850. De l'extérieur, bien sûr, un peu partout où vous soyez, vous faites le 1-866-790-9850. C'est sûr que c'est délicat et c'est sûr que c'est extrêmement difficile pour une victime au moment où on se parle de dire, de croire qu'il y a un véritable processus judiciaire qui travaille de son bord aussi. On a l'impression que, puis il y a des gens qui m'ont écrit là-dessus pour me dire, voyons donc, j'ai l'impression que celui qui a le droit de choisir, c'est Éric Salvaille ou son avocat, puis que c'est tout le monde contre la victime présumée qui est un bon témoin aussi, qui se tient pas mal. On a Benoît qui est en ligne. Merci Benoît, bonjour. Merci de nous appeler. Vous en pensez quoi de ça, vous?
Oui, ben je crois que ça vaut la peine de dénoncer, c'est sûr. Mais là, présentement, même dans l'opinion publique, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens attendent de plus être à l'emploi, des fois des 5 ou des 10 ans après, avant de dénoncer. Puis ça devrait être fait sur le champ. Mais maintenant, je crois qu'en 2020, les gens sont vraiment rendus plus rapides pour la dénonciation parce qu'ils perdent beaucoup de crédibilité. C'est comme les gens disent, ah, tant que ça a été payant pour toi ou pour ta carrière, t'es resté à l'emploi et tu t'es laissé fermer, c'était correct, tout était beau. Mais maintenant, ah, là, c'est plus correct 10 ans après ou quand t'as perdu ton emploi. Puis, il faudrait que les gens dénoncent le plus rapidement possible. Puis là, je crois que ça vaudrait vraiment la peine de dénoncer parce que les gens vont être coupables de tout coup.
Ouais, le problème, c'est la charge émotive qui est reliée à l'acte. Et puis, le fait de dénoncer, ça sous-entend qu'on se met un peu en pâture. Puis là, ce qu'on voit cette semaine, si on se met un peu à la place de Donald Duguay, là on se dit, il y a beaucoup de gens qui ont de l'empathie. Parce que, évidemment, moi, je suis pas en cours. Vous non plus, je pense pas. Benoît, vous n'êtes pas allé. Hein? Mais,
non.
Mais ce qu'on entend, on se dit, il faut être fait fort pour passer à travers tout ce processus.
Ouais, c'est sûr que d'en parler, ça l'aide maintenant. Les gens, là, c'est rendu plus, c'est vraiment beau. Il y a plein de gens qui vont appuyer. C'est rendu probablement plus, je sais pas que c'est facile, là, mais maintenant, plus facile aujourd'hui d'en parler et d'avoir beaucoup d'appui, de pas avoir peur de se faire pointer du doigt en voulant dire, ah, ben, tu cherches des problèmes ou n'importe quoi.
Ou tu cherches de l'attention. Tu cherches de l'attention. Exactement. Merci beaucoup, Benoît, de votre appel. Francis, bonjour. Est-ce que vous pensez?
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute, Francis.
Dans le fond, je voulais parler aussi de la présomption d'innocence. Oui, parce que ça, c'est quand même quelque chose au Québec là, qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Puis les tribunaux sont là justement pour trancher, bon, qu'est-ce qui s'est passé suite à la plainte, etc. Est-ce que c'est fondé ou pas? Tu sais, au Québec, on est fort aussi à vouloir accuser des gens automatiquement là, quand il y a quelque chose qui sort dans les médias ou quelque chose. Il faut laisser aux tribunaux vraiment de faire leur travail. Puis également aussi peut-être de sensibiliser, axer sur la sensibilisation quand il y a un acte criminel qui est fait comme justement l'agression sexuelle ou quelque chose, d'essayer de pousser les victimes. Je sais que c'est pas facile de dénoncer ce genre de choses-là, mais que des fois justement de dénoncer 20 ans, 25 ans après, des fois c'est beaucoup plus difficile parce que justement les témoignages sont flous et toute l'équipe. Tandis que si on sensibiliserait les gens et on les accompagnerait comme il faut dans leur démarche avec un très bon soutien, je pense que ça serait plus facile justement qu'on puisse, exemple, porter à procès là, dans l'année suivante. Ce genre de cause-là.
Ah oui, c'est sûr. Vous parlez de la difficulté de dénoncer après des années ici. Là, ça fait quasiment 25 ans dans le cas qui touche Eric Salvaire. Et c'est sûr que. Puis là, on parle souvent. Merci, Francis. Sylvain est avec nous. On parle souvent, Sylvain, aussi du fait que des fois, bon, la présumée victime semble douter un peu elle-même de ce qui s'est véritablement passé. Mais après 25 ans, c'est difficile de s'en souvenir de façon très claire aussi. Là. Est-ce que, comment vous voyez ça, vous, Sylvain? Oh, Sylvain, oui. Sylvain est-il là? Oui, allez-y, Sylvain, on vous écoute.
Oui, écoute, moi, je pense que, ben, regarde, s'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas eu de caméra, il n'y a pas eu. Tu sais, c'est un contre l'autre, là, ta parole contre la parole de l'autre. C'est très, très difficile parce qu'il n'y a pas eu de témoin. Puis, la seule manière de le faire pogner, c'est comme dans le temps, là, qu'il y avait avec Guy Cloutier, puis, tu sais, qu'il avait mis pas des caméras, mais des enregistreurs sur...
Des micros.
Des micros, c'est ça. Puis là, ça, c'est la seule moyen. Sinon, regarde, moi, je vous le dis pas parce que je prends pour Eric, ça, c'est sûr, je prends... Mais c'est sûr qu'Eric va gagner sa cause. Je vous le dis tout de suite, il va gagner sa cause.
Ouais. Parti comme c'est, vous vous dites...
Ben oui. Il n'y a pas eu de témoin, il n'y a pas eu de caméra. Il n'y a pas eu de caméra, c'est la parole contre l'autre. Il n'y a pas eu de... Même si tu comptes ça, tu comptes qu'est-ce qui est arrivé, je pourrais te compter des choses avec toi, puis un autre, puis un autre. Mais rendu en cours, il n'y a pas eu de témoin, là. Il n'y a pas eu de fait véridique que la personne a vu des choses ou il y a une caméra qui a filmé quelque chose. Fait que moi, je vous dis tout de suite, il va gagner sa cause. Comme je dis, je ne prends pas pour lui, mais il va gagner sa cause parce qu'il n'y a pas eu de témoin.
Voilà. Ben merci. Merci beaucoup. Justement, je voulais qu'on parle avec quelqu'un qui a un peu vécu ça, pas s'être rendu en cours. Bien malheureusement pour le groupe qu'elle représente. Les courageuses ont, dans le procès qui va concerner, bien sûr, Gilbert Rozon, ça va se passer au mois de juin. Les courageuses, c'est un groupe de femmes qui ont porté plainte contre l'ex-producteur de Juste pour rire. Patricia Tulane est leur porte-parole. Hier, quand on parlait de ce sujet, puisqu'on en parle toute la semaine, bien sûr, Patricia a réagi sur son Facebook. Elle est avec nous ce matin. Merci
bonjour,
d'être là.
Bonjour.
Désolée de t'avoir fait courir.
Mais non, mais c'est moi qui suis désolée d'être en retard.
Évidemment, bon, là, tu viens d'entendre. Là, oui. Sylvain nous dit, moi, je pense qu'il ne sera pas trouvé coupable, Éric. Là, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre.
Oui, ben, c'est bien pour ça que, justement, moi, je me bats en ce moment en siégeant sur le comité là, qui a été mis en place par Sonia Lebel et ses consoeurs pour essayer d'adapter la justice aux réalités des victimes d'agressions sexuelles, parce qu'on voit bien, ça c'est un cas encore qui l'illustre encore très très bien, que c'est très très difficile pour une victime d'obtenir une condamnation contre son agresseur. Et puis je constate aussi beaucoup, toutes les failles que j'ai déjà constatées moi dans mon cas, je les retrouve ici dans le cas de Donald Duguay. Premièrement, vous savez qu'il y a une charte des victimes canadiennes, hein, une charte des droits des victimes canadiennes, dans laquelle il est bien spécifié qu'on doit que tous les intervenants dans le système de justice doivent agir dans la compassion, dans l'empathie, dans le respect des droits des victimes.
Est-ce que ça inclut les avocats de la partie
absolument,
adverse?
Ça inclut les avocats de la partie adverse. Et là, je vois que ces avocats-là, malheureusement, ne se conforment pas à la charte canadienne des droits des victimes, parce que ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une entreprise de démolition de la victime. On attaque la crédibilité de la victime, on lui fait des procès d'intention, tu mens parce que tu cherches à attirer l'attention, etc. Mais en réalité,
il faut être fait fort. Hein?
C'est épouvantable, et c'est pour ça que le système de justice n'est pas adapté aux victimes. C'est pas normal que ce soit une épreuve pareille. C'est pas normal que chaque victime qui arrive en procès, parce que moi je me dis le cas de Monsieur Duguay là, il devait quand même être assez solide pour qu'il soit arrivé au tribunal, parce que sinon il aurait été rejeté tout de suite. Donc à mon avis, si les procureurs ont jugé que c'était un cas qui était admissible en cours, ça veut dire qu'il y avait quand même, c'était solide, c'était fondé sur quelque chose. Alors quand on dit Monsieur Duguay ment, Monsieur Duguay, pour moi, c'est impossible parce qu'il ne serait pas allé au tribunal si les procureurs avaient jugé qu'il mentait. Alors déjà en partant, et puis ce que je trouve horrible, même dégueulasse, c'est qu'à chaque fois, c'est la crédibilité de la victime qu'on remet en cause. C'est lui qu'on accuse de mentir, alors que dans les faits, 100% des agresseurs sont des menteurs. Il n'y a pas un agresseur qui va avouer qu'il a agressé quelqu'un. Ils sont toujours dans le déni. Et d'ailleurs, M. Salvaille, aujourd'hui, a nié toutes ces allégations-là. Il vient de le nier, je viens de l'entendre à la radio. Alors, il y a quelqu'un qui ment, mais pourquoi est-ce que ce serait nécessairement la victime? C'est toujours, je veux dire, les agresseurs mentent à 100%, ça c'est clair. Il n'y en a pas un qui va avouer qu'il a... Mais c'est encore sur la victime que retombent les mythes et les préjugés de « il veut attirer l'attention, il veut mentir, gna gna ».
Bon. Tu restes avec nous, Patricia Tulane, bien sûr. Tu suis le procès d'Éric Salvaille avec beaucoup d'attention.
Oui.
Et bien sûr, tu vas nous dire après la pause comment tu as vécu ton expérience avec les courageuses dans le cas de Gilbert Rozon. Parce que vous avez interviewé, vous avez été questionné, interrogé. Tu vas nous dire comment tu t'es sentie comme victime présumée. Certaines personnes me disent « pourquoi vous êtes victime présumée? Vous n'aidez pas la cause des victimes en les appelant présumées. Vous mettez un doute sur leur état. » Ce n'est pas moi qui ai décidé d'appeler ça une victime présumée. C'est comme ça que ça s'appelle, les amis. Je ne peux pas dire la victime. Si je dis juste la victime, c'est comme si je prenais pour acquis qu'elle l'était véritablement. Alors, pour faire un travail ici objectif, vous savez que d'habitude, j'ai une opinion qui est quand même assez claire, mais je n'ai pas le choix d'utiliser les bons termes. Ici, on parle de victime présumée, de victime alléguée. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. On va bien sûr avoir vos avis également après la pause. 514-790-9850. À tout de suite. On s'interroge sur l'intérêt de porter plainte quand on est une victime, que ce soit d'agression sexuelle ou d'autres choses. C'est sûr qu'à la lumière du procès d'Éric Salvaille cette semaine, il y a beaucoup de victimes qui disent « mon Dieu », ou de gens qui disent « mon Dieu ». Même un citoyen ordinaire regarde ça et se dit « ouf, la justice est particulière ». Mais évidemment, il faut garder espoir. Je suis en compagnie de Patricia Tulane. On va revenir avec Patricia, bien sûr, mais on avait appelé ce matin, plutôt, un expert en polygraphe, parce que je me posais la question, puis je suis sûre que vous vous la posez. Pourquoi Éric Salvaille a dû passer pas un, pas deux, mais trois polygraphes? Personne n'a répondu à cette question-là hier, mais nous avons Kelly Norman qui est avec nous, ancien de la SQ, expert en polygraphie. Bonjour, Monsieur Norman. Pouvez-vous nous dire pourquoi on fait passer trois polygraphes à quelqu'un qui est accusé comme ça?
Oui, bonjour, dans un premier temps, Mme Maréchal, puis vos auditeurs. Le nom, c'est Norman Kelly, notre famille étant Kelly. Pour répondre à votre question, bien sûr, normalement, un test polygraphique, on va prendre une victime sur des faits allégués qui sont survenus, par exemple, à une certaine époque, dans un certain contexte. Le fait qu'il y ait eu trois tests polygraphiques d'administrer, selon ce que j'ai vu dans la presse canadienne, il semblerait donc qu'on a ciblé trois événements différents, ce qui expliquerait, parce que sinon, là, il y a d'autres possibilités, par exemple, d'avoir eu un test non concluant, donc la personne après le test polygraphique, un diagnostic qui ne permet pas de démontrer sa sincérité ou non. Et donc, on demande la reprise d'un test. Mais ce que j'ai vu dans les journaux, semble-t-il, que ça a été fait sur deux journées consécutives. Donc, ce qui me porte à croire que fort probablement que M. Salvaille, soit avec les policiers ou avec un polygraphiste privé comme moi-même, ben a demandé justement de faire les tests polygraphiques en lien avec les allégations qu'il avait à cette époque-là, pour démontrer sa sincérité. Ce qui est toutefois aussi également intéressant de regarder, si on parle par exemple du dossier de M. Salvaille, je n'ai pas les notes sténographiques, ni même par exemple le verbatim de ce qui s'est dit en cours. Je trouve quand même toutefois intéressant ou curieux de constater que lors de son témoignage, bien entendu, son avocat, c'est un avocat chevronné, et il connaît son travail, il sait que le polygraphe n'est pas admissible, l'opinion sur le résultat n'est pas admissible en matière criminelle. Toutefois, il peut l'être en matière civile, donc c'est le juge au procès qui détermine s'il l'accepte, s'il accepte cette preuve-là. Toutefois, si je reviens au témoignage, ce que j'ai vu, on a parlé de « a subi trois tests polygraphiques », ce qui m'étonne un peu d'une personne versée en matière de communication, c'est qu'il règle générale, les gens, monsieur tout le monde, première chose qu'elle va dire, le mentionner, « j'ai réussi mon test ». Ouais. J'ai fait un test, je l'ai réussi, j'ai réussi un test. Et dans le cas qui nous occupe, ce que moi j'ai vu, qui a été relaté dans les journaux, c'est qu'on mentionne que monsieur dit avoir rencontré les policiers, avoir subi trois tests. Et après un test polygraphique, on a toujours le résultat. Parce que bien entendu, quand la personne l'échoue, elle est interrogée en conséquence sur justement l'échec du test, puis on tente d'obtenir des admissions, un aveu. Parce que ça, c'est admissible. Toute la procédure est admissible. La seule chose que l'expert ne peut pas dire, que ce soit de la police ou maintenant au privé, c'est l'opinion sur le résultat en matière criminelle. Mais tout le reste, c'est enregistré audio-vidéo et donc permet à, par exemple, le juge ou les jurés de pouvoir prendre connaissance d'admission ou d'aveu que le suspect aurait fait suite à la conclusion du test polygraphique. Et vraiment, monsieur a été préparé parce que, bien entendu, Maître Mascotte a dû faire un bon travail de préparation de son témoin, ce qui est normal dans des cas comme ça. Et ce qui m'intriguait, c'est le fait qu'on a choisi de dire, premièrement, ça a été fait volontairement, dans le sens où on voulait mettre dans un recoin d'un tiroir de la mémoire du juge le fait que la personne avait donc accepté de faire le test, ce qui est déjà toujours un bon signe.
Voilà, également, c'est ça. Ben,
et de le mentionner vient dire au juge, bon, ben, on peut pas s'en servir, mais maintenant, vous savez, dans un petit recoin de votre mémoire, que monsieur a subi 3 tests polygraphiques. Mais on s'est préservé, c'est ce qui m'étonne, de mentionner le résultat, ce qui aurait dû être, ce qui aurait été normalement, ce qu'on voit dans un cas comme ça. Fait que si je ne présumerais pas des résultats de monsieur Salvaille, je parle en général.
Sauf que ça teinte, moi, ça m'a, sincèrement, ça teinte quand même un peu le discours, parce que, comme vous le dites, M. Kelly, quand on dit il a subi 3 tests, regardez, ça démontre une très bonne volonté de la part de l'accusé. Ça démontre aussi qu'il s'est prêté puis qu'il n'y a rien à cacher. Il y a comme quelque chose de, regarde, je suis tellement clair de mon affaire, tellement sûr que j'ai rien à me reprocher. Je vais vous passer 3 tests polygraphiques. En même temps, on pourrait dire, pourquoi il y en a passé 3? C'est parce qu'il a coulé les 2 premiers. Mais là, vous nous dites, c'est sur 3 questions. Mais est-ce que c'est possible?
Madame Maréchal, ben, ça serait 3 victimes. Fort à parier que dans le cas qui nous occupe, il y avait sans doute des faits allégués sur 3 victimes différentes. Donc, la personne voulait faire les tests. Mais pour revenir à votre dernier commentaire, ce qu'il faut savoir également, c'est que ce serait intéressant de savoir est-ce que le test a été fait avec la police ou a été fait au privé. Mm-hmm. Parce que quand la demande est faite, par exemple, avec la police, bien entendu, c'est une technique d'enquête qui reste à l'intérieur de l'enquête policière. Mm-hmm. Mais quand le test est fait, par exemple, au privé, M. Salvaille de lever la main, par exemple, puis de dire « je veux faire un test polygraphique », s'il le fait, par exemple, dans un contexte privé, le test est confidentiel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que s'il vient me voir, on fait le test, s'il l'échoue, ben son avocat peut à ce moment-là décider de ne pas s'en servir. Mm-hmm. Et il va avoir les 4 murs, M. Salvaille et son avocat, qui va connaître les résultats. Je dis pas que c'est le cas présentement. J'ignore justement dans quel contexte les tests se sont effectués.
Mm-hmm. En tout cas, ça n'a pas été chez vous, visiblement, M. Kelly.
Visiblement, c'est pas avec moi.
Il y a Patricia Tulane qui veut réagir. Patricia?
Oui, M. Kelly, bonjour. J'aurais une question à vous poser. Effectivement, l'avocat de M. Salvaille est chevronné. Dans ce cas-là, même si les résultats du test polygraphique ne sont pas admissibles en cours, il ne se serait pas privé de dire qu'il l'avait réussi, non, si ça avait été le cas?
Et c'est ce qui m'intrigue. C'est pour ça que j'ai soulevé avec Mme Maréchal le fait que ce qui m'intrigue, et surtout que M. Salvaille, disons, qui est passé maître dans l'art de la communication, c'est très bien, il a été préparé. Oui. Quand il l'a soulevé, il savait très bien qu'il y aurait objection et que ce n'est pas une preuve recevable en matière criminelle. Ça a été fait volontairement. Mais bien sûr, c'est que pourquoi M. Salvaille n'a pas tout simplement dit ce qui aurait été naturel? J'ai subi 3 tests polygraphiques.
J'ai réussi,
M. le juge. Mmh. Et pourquoi s'être arrêté là? Ce qu'on peut comprendre, c'est que s'il y a des poursuites civiles, le test, étant donné qu'il peut être recevable, ben il faut quand même penser que M. Salvaille, avec la préparation de son avocat, moi, encore une fois, là, je ne présume de rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, se parjurer. Fait que s'il y a d'autres procédures par la suite et lors de son témoignage en matière criminelle, et ça pourrait être versé dans un procès civil, monsieur m'entend sur le fait qu'il aurait réussi son test alors que si, par exemple, il était exposé dans un procès civil, les questions qui ont été demandées, les tests polygraphiques, ça concernait quelles victimes sur des faits allégués qui remontaient à quelle époque, bien entendu, M. Salvaille sera embêté si le résultat de l'expert, que ce soit de la police ou du privé, dit que monsieur a échoué le test.
M. Kelly, pourquoi c'est jamais admissible en cours, ces tests-là? Il me semble que ça aiderait, non?
Il faut comprendre que, si par exemple on parle en général, dans certains endroits, c'est admissible. Donc, dans certains pays, par exemple, certains États américains, c'est admissible. Mm-hmm. Ici, l'arrêt Bellan, en 1987, la Cour suprême est venue donner des jalons assez précis sur l'utilisation, par exemple, d'une pseudo-science ou d'une science nouvelle. Mm-hmm. Même si le polygraphe a plus de 100 ans, qui a, par exemple, de la recherche à l'égard du polygraphe, il n'y en a pas moins que ce que les juges ont retenu dans l'arrêt Bellan de la Cour suprême, c'était de mentionner que ça relève de l'exclusivité, par exemple, du juge du procès de déterminer finalement la véracité, la sincérité, par exemple, des témoins qu'il entend à la cour. Et on n'a pas voulu remettre dans les mains d'un instrument et également de la police, parce que vous comprendrez que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on se substituerait au travail du magistrat et ce qu'on ferait, c'est qu'on fait l'enquête policière. Je mets mon chapeau d'enquêteur ensuite, parce que moi, j'étais longtemps aux enquêtes et à la polygraphie, à la Sûreté du Québec, mais j'enlève mon chapeau ensuite par exemple, d'enquêteur. Je mets le chapeau de polygraphe, je passe le test, monsieur échoue, et bien entendu, suite
Et vous vous en servez allègrement. Oui, oui, voilà.
C'est qu'il passe pas go, il ne reçoit pas son 200 puis s'en va en prison parce que à ce moment-là, ça voudrait dire que la cour deviendrait simplement prendrait acte de ce qui s'est passé à l'extérieur et mettrait son estampille pour que monsieur s'en aille en prison parce qu'il a échoué son test. Il faut savoir que le test n'est pas à 100%. Comme dans différents domaines de la science, il y a des faux positifs, faux négatifs. Et donc, c'est de garder à l'esprit. Je rappellerai quand même à vos auditeurs une chose importante, c'est que les psychiatres qui témoignent en cours, par exemple, criminel, sur leur opinion, sur, par exemple, sur la capacité d'une personne à comprendre ce qu'elle faisait lors de la commission du meurtre, on voit souvent dans les débats dans différentes causes qu'un vient dire que la personne était inapte à comprendre ce qu'elle faisait alors que l'autre vient dire le contraire. Et les pourcentages de fiabilité, par exemple, d'une expertise en psychiatrie versus ce qui s'est fait selon la recherche en polygraphie, le test a un taux de fiabilité plus grand. Toutefois, on ne s'en sert pas.
Le test polygraphique a plus de valeur, vous dites, qu'un expert, par exemple, en cours.
Ce que je disais simplement, c'est que les recherches qui ont été faites sur le polygraphe au cours des décennies, puis des études qui ont été faites et reproduites, par exemple, en laboratoire, en contrôlant les variables et en s'assurant justement que le test soit fiable et puisse être valide, puis également qu'on puisse le reproduire, ont démontré des taux de fiabilité. Par exemple, dans le cas qui occupe avec M. Salvaille, je ne doute pas que les tests qui ont été administrés ont un taux de fiabilité entre 87,5 probablement et 93%. Ce qui veut donc dire qu'elle laisse une place toujours à un faux positif, faux négatif. Faux négatif étant une personne qui dit la vérité, mais dans les faits, elle ment. Et faux positif étant l'inverse, une personne qui échoue son test, mais dit la vérité. Ça existe. Et donc, le législateur avait besoin également de prendre justement quand même du recul face à cette technique-là. Je ne vais pas monopoliser toute votre temps.
Merci. Monsieur Kelly, je vous trouve vraiment passionnant. Il faudra qu'on fasse une autre entrevue plus longuement sur les tests de polygraphie parce que c'est vraiment un univers fascinant, vraiment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Normand Kelly est un ancien inspecteur de la Sûreté du Québec, expert en polygraphe. Patricia, je voulais vraiment qu'on revienne sur quand même ce que tu as vécu, toi. Il va falloir le faire un petit peu plus rapidement.
Mais
c'est important parce qu'on apprend plein de choses en même temps.
Absolument, c'est très important.
Toi, t'as voulu, avec les courageuses, vous avez fait un recours collectif, ça n'a pas marché, mais t'as été interrogée, t'es passée par un certain processus quand même.
Le recours collectif, c'est pas terminé.
Vous essayez d'aller en Cour suprême.
Mais c'est au criminel que nos plaintes n'ont pas été retenues. Il y avait 21 plaintes au départ, 13 ont été examinées et là-dessus, une seule a été retenue. Et j'écoutais dans le ce que disait l'avocat, par exemple, il reprochait à Donald Duguay, enfin, il utilisait cet argument contre lui, il lui reprochait d'avoir écrit une lettre à la procureure pour se plaindre de son travail.
Ouais.
On l'a fait aussi. Il y a deux membres du groupe qui l'ont fait. Moi-même, je me suis exprimée, j'ai émis des doutes quant à la compétence de la procureure.
Moi, j'ai trouvé ça épouvantable que cette lettre-là,
se retrouve
dans les mains de Maître Massicotte.
Ben, c'est parce qu'ils sont obligés de divulguer toute la preuve et apparemment, ça fait partie de la preuve. Mais ça, pour moi, c'est pas un élément de preuve qui prouve ou non que M. Duguay est coupable ou pas. Parce que moi aussi,
ça montre qu'il était difficile puis que c'est une personne. Oui. Ça montre, regarde, il est ostineux.
Voilà.
C'est ça que ça montre.
Sauf que c'est pas le seul. Il y a beaucoup de victimes qui sont pas satisfaites du travail des procureurs, dont nous. Alors moi, je suis ici pour dire que M. Duguay, j'aurais fait la même chose que lui. J'aurais exprimé mes doutes quant à la compétence de la procureure qui m'a reçue. Et d'ailleurs, deux de nos membres ont écrit des lettres de plainte aussi. Alors, si on n'a plus le droit de se plaindre, où est-ce qu'ils sont les droits des victimes? C'est pour ça que je dis que le système est très inéquitable. Les accusés ont tous les droits. Ils sont préparés par leurs avocats. Ils ont le droit de garder le silence. Donc, c'est vraiment des avocats chevronnés qui vont porter leur parole face à un individu qui connaît rien au système de justice, qui est garroché tout seul là-dedans, dans une arène où on le démolit à toute fin pratique.
T'as dit à mon recherchiste.
C'est David contre Goliath.
Ouais, t'as dit à mon recherchiste hier. Je suis quasiment contente.
Mais
c'est-à-dire pas avoir à subir ça.
Moi, je suis contente qu'il y ait quand même eu une plainte qui a été retenue, là, parce qu'il fallait qu'il y en ait une qui soit retenue. Mais à la lumière de ce que je vois aujourd'hui, je peux me dire soulagée de pas m'y coller, parce que moi, là, vivre ça, là, c'est un traumatisme intense, là. Monsieur Duguay, là, je sais pas comment il va sortir de cette expérience-là, mais c'est suite à son expérience traumatisante d'agression sexuelle, ben là, il y a un autre traumatisme qui vient s'ajouter à ça. Bonne chance. Puis ce que je trouve épouvantable aussi, c'est que nous, en toute bonne foi, on s'adresse à la justice parce qu'on veut de l'aide, on veut obtenir réparation. Et finalement, ça se retourne contre nous et c'est le procès de la victime qu'on fait. Alors, si c'est ça le système de justice, c'est pas ce procès en ce moment qui va pousser les gens à dénoncer. Vous comprenez? Tu comprends ce que je veux dire? À mon avis, là, ça fait simplement l'illustration et la preuve que le système de justice n'est pas du tout adapté aux victimes d'actes criminels et que c'est pour ça que moi, je serais en faveur d'un tribunal spécialisé avec des gens vraiment formés. Parce que quand on dit qu'un procureur puis même des fois les médias aussi, hein, ils ont tendance à orienter la pensée du public. Je disais dans la presse, Monsieur Duguay a critiqué sa procureure qui a 15 ans d'expérience et qui est spécialisée. T'es pas obligé de dire ça, là. Je veux dire, c'est orienté. Tu sais, c'est de faire passer M. Duguay pour un ostineux, justement. Mm. Elle est peut-être expérimentée, puis elle a peut-être 15 ans d'expérience. Mais des erreurs, on en fait tous. Les procureurs sont pas à l'abri d'une erreur. Donc, c'est vraiment... Il y a un côté... Autant les médias sont bons pour dénoncer, pour révéler des choses qui sont cachées, mais autant, parfois, ça peut être dangereux parce que ils alimentent les mythes et les préjugés du public par rapport... Moi, je lisais beaucoup de commentaires hier. Je suis sûr qu'il ment. Et puis, oui, c'est ça, il veut de l'argent, puis gna gna. Tout se retournait contre Donald Duguay qui, lui, de bonne foi, est allé porter plainte contre quelqu'un qui l'a agressé. Je peux pas imaginer qu'il a inventé tout ça, là. Quand M. Salva...
Ça serait quoi son intérêt, là?
Ça serait quoi son intérêt de vivre ce qu'il est en train de vivre présentement? Personne n'a besoin de ce genre d'attention, ça, je peux te le garantir.
Si tu savais le nombre de témoignages anonymes et certains que je connais personnellement de gens qui ont côtoyé l'accusé en question et qui me témoignent de
bien
plein
sûr.
De choses.
Bien sûr, et c'est ça qui est
épouvantable. Mais après, on pourrait parler longuement, on va devoir arrêter ici, Patricia, mais on pourrait parler longuement du pourquoi il y a des gens, ensuite, tout le monde est témoin à un moment donné d'un acte criminel ou et en particulier de harcèlement sexuel ou psychologique. Pourquoi? On dit rien.
Par peur. C'est la peur. La peur de perdre son emploi, la peur des représailles, la peur de passer pour un faiseux de troupe, comme ce que M. Donald Duguay est en train de vivre actuellement, la peur de passer pour un menteur. Penses-tu que si j'avais dénoncé, moi, à l'époque, toute seule contre Gilbert Rozon, qu'est-ce qu'on aurait dit? Que je fabulais? On m'aurait pas cru? C'est pour ça qu'on attend si longtemps avant de dénoncer. Et quand on le fait, malheureusement, ça se retourne contre nous. Donc, ça nous donne raison, finalement, de ne pas l'avoir fait. C'est ça qui est absurde. C'est un système
Qu'est-ce
de justice.
Qu'est-ce que tu retiens de toute ton expérience?
Mais moi, je suis quand même contente d'avoir dénoncé parce que je vais te dire quelque chose. Si les victimes continuent à garder le silence par peur, justement, de vivre ce que M. Donald Duguay est en train de vivre en ce moment, eh ben, elles font le jeu des agresseurs. Les agresseurs vont continuer à agresser en toute impunité. Donc, plus le nombre de victimes qui dénoncent va être grand, plus la justice va être obligée de faire des efforts pour répondre aux besoins des victimes d'agressions sexuelles qui se tournent vers la justice pour avoir de l'aide. Et en ce moment, ce n'est pas ce que les victimes obtiennent. C'est pas ce que les victimes obtiennent. Donald Duguay, en ce moment, il n'obtient pas de l'aide, là. Il est en train de se faire démolir, de se faire insulter, de se faire humilier. Et c'est épouvantable parce que lui, il agit en toute bonne foi au nom des victimes.
Merci beaucoup, Patricia Tulane.
Merci, Isabelle.
Merci d'avoir été
Merci.
Là. Tout de suite après la pause, c'est l'entrevue sans filtre. Et je reçois le comédien metteur en scène Pierre-François Legendre.